autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, autour d'un grain de sel. Élément essentiel, indispensable à la vie. Pourquoi depuis toujours et sous toutes les latitudes, le sel a-t-il tourné la tête et le goût des humains? Comment depuis la préhistoire a-t-il été récolté, échangé, mais aussi vénéré ou prélevé comme impôt? Pourquoi le retrouve-t-on sur toutes nos routes, celles de l'esclavage, du bagne, comme celles de la mondialisation? Comment le sel a-t-il joué, pour le meilleur comme pour le pire, un rôle aussi fondamental dans toutes nos sociétés, dans toutes nos cultures humaines? Pourquoi le sel nous ensorcelle? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, l'historien du sel, Jean-Claude Hoquet, qui vient de publier aux éditions du CNRS « Le sel, de l'esclavage à la mondialisation », un ouvrage qui devrait faire date et dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Amis auditeurs, avis aux amateurs, autour de la question « Pourquoi tant de sel dans nos vies ?» Bienvenue. Bonjour Jean-Claude Hoquet.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Lille. Jean-Claude Hoquet, vous êtes historien du sel, directeur de recherche au CNRS, professeur émérite à Venise et à Lille, auteur de nombreux ouvrages sur le sel et sur la fortune de Venise notamment. Vous venez de publier aux éditions du CNRS, ce qui est peut-être la somme de toute une vie de recherche, Le sel, de l'esclavage à la mondialisation, où l'on se rend compte vraiment du rôle absolument essentiel que joue le sel dans nos vies et ce dans toutes les sociétés humaines à toutes les époques. Alors avant de répondre à la question pourquoi le sel nous ensorcelle, depuis quand et comment vous a-t-il, j'ai envie de dire, ensorcelé vous-même, Jean-Claude Hoquet?
Oh, c'est une très vieille histoire. Elle remonte, si mes souvenirs sont bons, à 1953, lorsque j'étais en camping avec des parents au Pouliguen, près de la Baule, et en bordure de ce qui est devenu et que tout le monde connaît, le marais de Guérande. Et il y avait à l'époque, les marais étaient beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont été réduits par l'urbanisation, la construction de grandes surfaces, etc., de parkings. Mais à l'époque, je sais que je revenais de la plage vers 15h30, 16h, sans m'attarder avec les amis, pour admirer ce que faisait un paludier. Paludier, c'est le mot qui convient pour les sauniers du marais de Guérande. Et j'admirais ce monsieur qui, pieds nus, en bordure de son bassin, récoltait du sel avec un instrument d'une longueur inégalée, un manche de 7 mètres, avec lequel il a tiré, et une planchette avec laquelle il a tiré le sel. Et j'étais toujours émerveillé par cette cristallisation. Je ne connaissais pas le mot à l'époque, j'étais tout jeune. Et le matin, il y avait une surface d'eau quelconque à la plage, et à l'après-midi, eh bien, on récoltait dans cette surface du sel qui s'était cristallisé durant la journée sous l'ardeur du soleil et la pression du vent.
Le mystère et la beauté du sel des marais salants de Guérande, quand vous étiez au camping, vous aimiez le sel aussi, le goût du sel, vous l'aviez déjà?
Ah, j'aimais déjà le goût du sel. Il faut être prudent avec ce goût du sel. Le sel donne sa saveur à l'alimentation humaine ou animale, etc. Mais l'abus de sel rend cette nourriture désagréable. Il en faut pas plus qu'il n'en faut.
Pas plus qu'il n'en faut. Alors aujourd'hui, on se méfie même parfois du sel, mais ça, on y viendra plus tard. En tout cas, vous êtes ensuite devenu historien, vous avez été envoyé à Venise par l'historien Jacques Le Goff, et vous avez plongé, si j'ose dire, dans le sel. Ce sel donc que les hommes ont réussi à extraire depuis la préhistoire, ou presque, enfin avant même de savoir écrire, les hommes ont récolté le sel de toutes les manières possibles, c'est ça?
Je ne sais pas si de toutes les manières possibles est exact. Le sel est souvent caché. Et les hommes de l'âge du bronze, peut-être de la fin du néolithique, ont réussi, de l'âge de pierre donc, qui précède l'âge du bronze, ont réussi à faire du sel Sur le continent, là où aujourd'hui les sources sont les plus abondantes, notamment en Lorraine par exemple, en faisant bouillir une saumure sur du feu et à récolter ensuite le sel en brisant le récipient dans lequel la saumure avait bouilli. Parce qu'il s'était formé un pain de sel, et pour le démouler, on n'avait pas d'autre, les hommes de la préhistoire n'avaient pas d'autre solution que de briser le sel, ce qui a donné naissance à une archéologie du sel autour des briquetages. Et on appelle ces poteries d'argile imprégnées de sel, d'argile cuite, des briquetages, parce que ça ressemble à de la brique pilée ou cassée.
Parce que vous l'avez rappelé, oui, Jean-Claude Hoquet, c'est que la particularité du sel, c'est que c'est un élément qui est à la fois abondant, mais qui est effectivement caché, enfoui dans le sol, dissous dans la mer, c'est ça?
Alors, il est effectivement caché, il est en solution dans les mers, et en particulier dans les mers chaudes. La Méditerranée est plus salée que la mer Baltique ou la mer du Nord, d'une part. D'autre part, il est caché dans le sous-sol. Et dans le sous-sol de l'Europe, par exemple, il est protégé par une couche imperméable, sinon il serait dissous. Et les hommes ont découvert le sel en goûtant, par exemple, l'eau de rivière salée, de Rio Salado, comme on dit en espagnol, ou de rivières salées qui prenaient leur source ou qui traversaient des couches de sel, de sel gemme, donc de sel continental. Et ils sont parvenus à extraire le sel en creusant des galeries de mines, par exemple, dans les Alpes autrichiennes ou bavaroises, là où est née la civilisation celtique, qui est largement une civilisation fondée sur l'exploitation et la commercialisation du sel.
Déjà la civilisation celtique, donc, fondée sur le commerce, parce qu'évidemment, c'est à la fois il faut l'extraire, mais ensuite le sel devient un enjeu de commerce, un enjeu de pouvoir. On va y venir autour de la question pourquoi le sel nous ensorcelle. Je propose d'écouter un éclairage salin lui aussi, c'est celui du paléontologue Francis Duranton.
Le sel, je crois que pour l'homme, ça a toujours été un enjeu. Je veux dire, déjà dans les temps préhistoriques, on avait des exploitations de marais salants ou de roches salifères, déjà depuis fort longtemps. Je veux dire, notamment, il y a pas mal de travaux qui ont été menés par des collègues archéologues sur le versant atlantique, où ils ont mis en évidence des entreprises, des usines, des centres de fabrication, en tout cas de sel, par en chauffant pour faire évaporer l'eau de mer pour fabriquer du sel. Et on voit bien que ce sel a joué un rôle extrêmement important aussi à travers l'histoire, avec notamment tous les impôts, toutes les taxes qui étaient posées sur le sel et qui finalement, c'est un peu toutes ces révolutions sur les taxes qui ont conduit à la Révolution française à un moment ou à l'autre. Donc on voit bien que le sel, c'est extrêmement important. Et puis, c'est Confucius qui disait que les ennuis sont le sel qui fait apprécier le goût de la vie. Donc je pense que le sel, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'homme.
Jean-Claude Hoquet, vous êtes d'accord avec Francis Duranton, le sel de la vie, enfin le sel, c'est la vie carrément.
Ah, le sel, c'est la vie, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage allemand, Salz ist Leben. Le sel, c'est la vie. Effectivement, on peut remonter à Confucius, bien sûr, en Chine, où le sel a joué un rôle fondamental dans la puissance des différentes dynasties qui se sont succédées dans cet immense empire des Han. Mais on a davantage de vestiges archéologiques, notamment, dans la fabrication du sel continental grâce au briquetage. Et on a de la peine à découvrir l'origine des marais salants. Parce que le sel solaire, lui, ne laisse pas de traces comme le sel produit par le feu en a livré.
Mais c'est-à-dire que le sel, justement, il est très abondant sous quelle forme? C'est un élément minéral? C'est un cristal? Comment est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, c'est un élément minéral qui existe dans la mer. D'une part, je n'entame même pas une discussion technique ici, mais il a été déposé sur Terre par les mers sédimentaires qui se sont évaporées, qui ont donné naissance à des lagunes salées. Et le sel sert de piège à un autre élément fondamental de l'histoire humaine, qui sont les hydrocarbures, le pétrole et le gaz naturel. Sous la couche de sel gemme, il y a en général des réserves immenses de pétrole et de gaz naturel qui sont emprisonnées par le sel. Et le sel a aujourd'hui une autre destinée. Par exemple, dans la région du Rhône provençal ou avignonnais, dans ce qu'on appelle en géographie le Bas-Rhône, eh bien, on a vidé les cavités de sel pour en faire des silos, pour y entreposer des réserves de pétrole ou de gaz naturel.
On voit bien l'ambivalence du sel qui est effectivement partout et sur toutes nos routes commerciales. Vous le montrez très bien dans cet ouvrage, le sel de l'esclavage à la mondialisation. Depuis l'Antiquité, les routes du sel, ça a toujours été aussi les routes de l'esclavage, les routes du travail forcé, du servage à l'esclavage.
Oui, c'est exact. Le sel est partout, mais comme il est caché, les hommes ont été longtemps, quelquefois, à le découvrir. Et dans les déserts tropicaux en particulier, les déserts à saison sèche prolongée, eh bien, les mines de sel étaient exploitées par des esclaves. Et il y avait un échange permanent entre le sel saharien, conduit par des caravanes de dromadaires qui pouvaient atteindre des proportions, des nombres invraisemblable, enfin, auquel on a du mal à ajouter foi, des dizaines de milliers de dromadaires qui portaient des plaques de sel aux populations noires du Sahel, qui, elles, livraient à ces nomades du désert le millet, d'autres céréales et des esclaves. Des esclaves qui étaient mis à travailler dans les mines de sel.
Et oui, c'est ça, parce que c'est lié. C'est-à-dire que le sel, dans les mines de sel, on utilise des serfs ou des esclaves. En tout cas, c'est du travail forcé. Dans les bagnes également, ça va être lié au travail forcé. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est le pouvoir, la puissance. Celui qui détient le sel peut l'échanger contre tout ce qu'il veut?
Absolument. Le sel est une monnaie. Le sel a servi longtemps de monnaie. Et c'était vrai en Europe, sous la forme monétaire, et dans les opérations de troc, on évaluait d'abord les produits qu'on échangeait en monnaie d'or ou d'argent, et puis après, on substituait à la monnaie du sel. Et c'est vrai également en Afrique, où le sel a longtemps, les barres de sel protégées par des feuilles séchées, des feuilles de bananier, etc. On faisait des lingots comme ça, des barres de sel qui allaient vers le sud, vers les régions les plus humides d'Afrique, car l'Afrique, ce n'est pas seulement le désert, c'est aussi le climat équatorial très pluvieux. Et à mesure que le sel diminuait de volume et de poids, eh bien, sa valeur augmentait. Sa valeur augmentait parce que plus on s'éloignait des lieux de production du sel, bien plus le sel acquérait de la valeur.
Autour de la question pourquoi le sel nous ensorcelle, pour le meilleur mais aussi pour le pire, quand les routes du sel se confondent, vous l'avez dit, avec les routes de l'esclavage, je vous propose d'écouter Papa Wemba sur RFI, Esclave. Esclave, le regretté Papa Wemba sur RFI. Nous sommes en duplex avec l'historien du sel Jean-Claude Hoquet qui vient de publier aux éditions du CNRS Le sel, de l'esclavage à la mondialisation. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook autour de la question du sel. Autrefois, on disait aussi l'or blanc, première monnaie d'échange sur toute la planète et notamment sur le continent africain. Je vous propose tout de suite l'éclairage du professeur Bertrand Hirsch, spécialiste de l'histoire ancienne de l'Afrique et du Moyen-Âge éthiopien. Il est interrogé par Julie Lacaze.
Dans plusieurs régions d'Afrique, on voit bien que ça a été un produit très important. Il y avait une demande de sel des sociétés africaines qui savaient en produire elles-mêmes à partir de végétaux, de choses comme ça, mais qui étaient très friandes de sel gemme, en particulier, ou de sel marin. On sait très bien ça pour la partie sahélienne. Il y avait des salines comme Amterasa, donc le sel gemme, ou sur la côte britannienne, à Olil, c'est du sel marin. Et on sait que c'était un produit qui rentrait dans le commerce transsaharien et qui servait à acquérir des produits du sud du Sahel, en particulier l'or. Hein. Certains auteurs arabes parlent même à un moment donné d'un échange direct sel-or. Donc c'est un produit très recherché au sud, dans les pays sahéliens. Et donc on avait des salines au Sahara. Il y avait une compétition évidemment pour le contrôle de ces salines sahariennes. En Éthiopie, on a aussi un commerce de sel très ancien, qui est aujourd'hui dans la dépression Afar. Il y a une région où on continue à débiter du sel. On le voit faire ça, ils débitent encore des gros morceaux de sel qui sont chargés à d'autres dromadaires et qui montent sur le haut plateau chrétien. Aujourd'hui encore. Donc on a des témoignages anciens de ce commerce du sel. Donc c'est un produit très recherché, le sel.
Produit très recherché, vous l'avez dit Jean-Claude Hoquet, okay, on peut parler d'or blanc pour le sel ?
C'est un mot qui a une belle fortune, l'or blanc, weisses gold, disent les Allemands, mm-hmm. qui ont ainsi traduit un de mes ouvrages anciens qui s'appelait Le sel et le pouvoir, et eux ont traduit ce sel par or blanc et le pouvoir en allemand. Je voudrais revenir sur l'échange sel-or,
oui.
il est attesté. Et par des sources écrites et en particulier par des sources arabes. Et il a été décrit au début du XIVe siècle par le géographe arabe, le grand voyageur, Ibn Battuta. Mmh. Et il parle à ce propos, il décrit comment se pratique l'échange. C'est un échange muet. Les Touaregs, qui sont les nomades du désert, maîtres des salines du désert, apportent des plaques de sel qu'ils ont obtenu dans les salines du Sahara, et ils se retirent. Ils se retirent, et les Noirs apportent un peu d'or, parce que les Noirs du Sahel produisent de l'or dans les rivières, orpailleurs, etc., orpaillage. Et si la quantité d'or proposée par les Noirs ne convient pas aux Touaregs, ils se retirent de nouveau. Les Noirs complètent avec un peu plus d'or, et lorsque les deux partenaires commerciaux sont mis d'accord, eh bien les Touaregs emportaient l'or, qui ensuite gagnaient les villes arabes du nord de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée, et ils laissaient le sel aux Noirs du Sahel, qui en étaient très demandeurs. Alors le sel des Afars, c'est une dépression qu'on appelle aussi la dépression des Danakils, c'est le mot arabe,
en Éthiopie.
Afar, c'est le mot noir, en bordure de la côte de l'Érythrée, et qui effectivement approvisionnait non seulement les plateaux, les hauts plateaux de l'Éthiopie, mais qui allait jusqu'au Kenya voisin.
On voit bien les liens, vous l'avez dit vous-même, entre le sel et le pouvoir sur le continent africain, bien sûr, mais pas seulement. Parce que dans ce même Moyen-Âge, un de vos chapitres s'intitule « La rente des puits salés ». Dans ce même Moyen-Âge, du côté de l'Europe, le sel était aussi, raconte aussi notre histoire économique, commerciale, celle des rentes et des impôts.
Oui, parce que la saline, c'est un lieu de production qui a toujours exigé de gros investissements. Par exemple, les rentes de Puy-Salé, je parle là de Salins et d'Arquesnans dans le Doubs, dans les actuels départements du Jura et du Doubs, eh bien, il fallait non seulement pomper la saumure du sous-sol avec une gigantesque roue à aube qui existe toujours, que l'on peut visiter à Salins. Il fallait ensuite conduire cette saumure par de véritables pipelines de mélèze creusés et mis bout à bout jusqu'à Arquesnans. À Arquesnans, en bordure de la Loue, il y avait un bâtiment de graduation qui élevait le degré, parce qu'on mesure le sel contenu dans la saumure en degrés, avec un densimètre. Et ce sel donc cette saumure était hissée en haut des bâtiments de graduation, puis ensuite chauffée dans des poêles de plomb. Et donc, tout cela coûtait extrêmement cher. Il fallait aller chercher le bois dans les forêts proches, il fallait construire, faire des tonneaux pour transporter le sel vers les cantons suisses qui en étaient très demandeurs à l'époque, car ils ignoraient qu'ils avaient eux-mêmes du sel dans leur sous-sol. Aujourd'hui, ils exploitent ce sel dans des salines très modernes. Et ce processus de fabrication très complexe exigeait des investissements. Et les nobles, les notables, le haut clergé investissaient dans les salines. En échange de quoi, ils obtenaient des rentes en sel comme dividende du capital investi.
On voit que c'est déjà les prémices d'une forme de mondialisation aussi, de nos commerces, les prémices de toute notre histoire économique. Pourquoi est-ce que c'était si important d'avoir du sel ? Parce qu'on en a besoin, parce que ça permet de conserver les aliments, parce qu'on ne peut pas vivre sans sel ?
D'une part, sa qualité première, c'est de renforcer la saveur et le goût des aliments, mais d'autre part, ça a été longtemps le seul moyen de conservation dont on disposait. Avant la création du froid industriel, dans la seconde moitié du 19e siècle, le sel, c'était le grand outil de la conservation des produits animaux, aussi bien les viandes que le poisson, les laitages, le fromage, le beurre, etc. Et par conséquent, il y avait une fin de sel. Et alors, vous parlez avec raison de la mondialisation. Eh bien, les navires de la mer Baltique. La mer Baltique est une mer froide, fermée et peu salée. Les navires des ports de la mer Baltique, de Lübeck à Danzig et à Riga, dans les actuels pays baltes, descendaient le long des côtes de l'Atlantique français ou portugais pour entrer finalement en Méditerranée et prendre du sel au salin de Sardaigne ou de Sicile. Oui, dès le Moyen-Âge, dès le 15e siècle...
C'est vraiment les premières mondialisations autour du sel.
Les premières mondialisations. Et ensuite, quand les Pays-Bas, qui sont espagnols, se révoltent contre l'Espagne et Philippe II, Philippe II décrète le blocus du sel. Le sel ne va plus en Hollande. Et les Hollandais sont obligés de traverser l'Atlantique pour aller charger du sel dans les Caraïbes, où ils installent des marais salants extrêmement puissants autour de la Trinité, de Caracas, etc., dans les lagunes du Venezuela.
Le sel raconte vraiment notre histoire, pour le meilleur comme pour le pire, mais le sel raconte notre histoire.
Bah, pour le meilleur, incontestablement.
Pour le goût,
pour
oui.
Le pire, bah, parce que les États ont multiplié les impôts sur le sel. Votre premier interlocuteur en parlait. Et ils ont multiplié les impôts sur le sel. Ils ont rendu la consommation de sel obligatoire pour augmenter le rendement de l'impôt. Et tout cela, évidemment, fait que le sel a conservé dans les souvenirs collectifs des Européens, par exemple, mais pas seulement des Européens, mais il a le goût amer de l'impôt. Voilà,
c'est ça, le goût amer de l'impôt, joli.
Le goût amer de l'impôt, oui.
Autour de la question, pourquoi tant de sel dans nos vies ? Pourquoi a-t-il à la fois le goût amer des impôts, mais aussi le bon goût salé, le goût osé aussi ? On y reviendra sur tous les mots autour du sel, toute la symbolique, il est parfois sacré, le sel. Pourquoi le sel nous sert à tout, et même à refaire non seulement l'histoire humaine, l'histoire économique, mais aussi l'histoire géologique de notre Terre ? C'est un nouvel éclairage du géologue et géo-archéologue Laurent Bruxelles.
congéologie, nous, le sel nous a appris quelque chose de vachement, de très très intéressant. C'est que lorsqu'il y a eu des forages pétroliers en Méditerranée, on s'est aperçu que tout au fond de la Méditerranée, il y avait des couches de sel. Or, le sel ne se dépose pas au fond de la mer. Ça a montré notamment que la Méditerranée, à un moment ou à un autre, s'est asséchée. Et rien que la présence de ce sel a pu montrer qu'il y a 5 millions d'années, le détroit de Gibraltar s'est fermé et que la Méditerranée s'est entièrement vidée. Les vallées se sont creusées très profondément, dont la vallée du Rhône. Et puis très rapidement, ce détroit de Gibraltar s'est réouvert. L'Atlantique est devenu et revenu alimenter la Méditerranée, parce que la Méditerranée est une mer déficitaire. Tout s'est rempli, y compris les vallées. Et aujourd'hui, par exemple, on sait que le canyon du Rhône, qui est aujourd'hui pas très profond, en fait est incisé de plusieurs centaines de mètres et qu'il est remonté jusqu'à Lyon. Donc le sel, finalement, nous a dévoilé une partie de la géologie qu'on ne connaissait pas.
Sel qui permet aux géologues de remonter le temps. Vous voulez réagir, Jean-Claude Hoquet, à cet éclairage du géo-archéologue Laurent Bruxelles ?
Écoutez, moi je suis historien. Et l'historien travaille avec des écrits. Mm-hmm. Hein, il ne travaille pas avec, à la différence de l'archéologue.
Bien sûr.
Et je m'incline devant le savoir des archéologues et des géo-archéologues d'aujourd'hui. Votre interlocuteur a parfaitement raison de souligner les variations de niveau de la Méditerranée. Et la présence, par exemple, de la grotte Cousquer à 30 mètres sous le niveau actuel de la mer.
Où on a retrouvé des vestiges, des traces de peinture rupestre.
Exactement, oui, montre ces variations. Qu'ensuite, que la Méditerranée soit une mer finalement relativement récente dans sa forme actuelle, et qu'elle ait disparu au cours des âges géologiques, c'est bien possible, et votre interlocuteur a parfaitement raison de prendre le sel, les couches de sel sous-jacentes à la mer, à témoin de ce qu'il avance.
Comme quoi le sel nous raconte beaucoup de choses. À l'historien que vous êtes, justement, Jean-Claude Hoquet, le sel raconte une histoire de navigation sur le Rhône, les salins d'aigues mortes et le monopole royal du sel. C'est un des chapitres de cet ouvrage sur le sel, de l'esclavage à la mondialisation.
Oui, c'est même le chapitre le plus récent. Je l'ai écrit parce que j'étais commissaire scientifique de l'exposition qui s'est déroulée durant l'année 2016 sur les remparts d'Aigues Mortes. Aigues Mortes, c'est la ville fortifiée par Saint-Louis. Saint-Louis, c'est le roi Louis IX, le roi de France, qui a attaché son nom aux dernières croisades. Mmh. Et il a fortifié la seule fenêtre que le royaume possédait sur la Méditerranée, parce que le Languedoc et la Provence appartenaient à l'époque à des souverainetés étrangères. Le roi d'Aragon pour le Languedoc et les ducs d'Anjou, roi de Naples, pour la Provence. Aigues Mortes, c'était déjà une avancée du royaume vers la Méditerranée, mais Aigues Mortes présentait un énorme avantage. C'était que Aigues Mortes possédait les salins dits à l'époque de Péquet ou Pécaïs, comme disent les languedociens, qui remontait le Rhône et qui allait finir dans les cantons suisses, hein, dans le Valais ou le Pays de Vaud.
Parce que justement, on pensait qu'il n'y avait pas de sel en Suisse. Ensuite, la Suisse est devenue un carrefour du sel. Les routes bougent autour du sel. Hein.
La Suisse est devenue un carrefour parce que les cantons importaient du sel de partout. De Venise, de Gênes, de la Provence et d'Aigues Mortes, bien sûr, de la Bourgogne et de la Franche-Comté, celle de Salins. Et n'oublions pas que Arquesnan a été construit. Arquesnan, c'est un modèle d'architecture industrielle du XVIIIe siècle, de l'époque des Lumières, construit par un grand architecte français, Claude-Nicolas Ledoux, pour fournir les cantons suisses. Et les cantons suisses, en échange du sel qu'ils recevaient de France, le payaient avec les fameux gardes suisses, avec des mercenaires qu'ils livraient au roi de France pour sa garde personnelle.
Première mondialisation, autour de cette route du sel. Le sel qui a aussi accompagné chaque mutation de notre économie monde, comme vous le dites bien, et jusqu'aux prémices de l'industrialisation.
Ah oui, mais le sel, c'est certainement le premier produit qui est l'objet d'une production industrielle de masse, Et ceci est lié aussi à d'autres découvertes, parce que en cherchant le sel, les hommes ont découvert le charbon. Ils cherchaient le sel.
C'est en cherchant le sel qu'on a découvert le charbon.
Et en cherchant le sel, on a découvert le charbon. Et en Angleterre, par exemple, où est née la révolution industrielle, on a découvert en même temps le sel-gemme. On l'exploitait par des procédés artisanaux et un peu archaïques, mais à partir de la fin du XVIIe siècle, on l'exploite par des galeries de mines, et de la même façon qu'on exploite le charbon. Et dans la région de Liverpool, du Cheshire, de Manchester, eh bien, on a les deux produits sur place, et donc on faisait cristalliser le sel de Saumur en les chauffant à l'aide du charbon.
Ah oui.
Mais il y a des procédés qui sont encore plus extraordinaires. Et je voudrais, si vous le permettez, dire un mot de la façon dont les Hollandais, les Zélandais plus précisément, ceux qui habitent la Zélande, produisaient du sel à la fin du Moyen-Âge. Ils avaient des tourbières en bord de mer. Et ces tourbières étaient alternativement couvertes et découvertes par les marais. Et ils faisaient un feu avec de la tourbe. La tourbe, c'est un combustible qui contient du carbone. Ça brûle très bien. La tourbe séchée brûle très bien. Et de ces cendres, ils les exposaient ensuite à l'action de l'eau douce. Et l'eau filtrait le sel contenu dans les cendres de tourbe, la tourbière étant salée. Et ensuite, on faisait bouillir cette saumure sur un feu de tourbe. Et on recommençait l'opération cyclique de cette façon-là, jusqu'au jour où il a fallu interdire cette production, parce que les tourbières exploitées formaient des carrières au pied des digues et fragilisaient les digues qui protégeaient la Hollande. Et un raz-de-marée a emporté les digues et tout le système a été emporté par la mer à la façon d'un tsunami dont on connaît aujourd'hui les ravages qu'il peut causer.
Autour de la question pourquoi tant de sel dans nos vignes et pourquoi tant d'ingéniosité pour l'extraire, le transporter, le vendre, le partager, le cultiver, pourquoi tant de sel jusque dans nos larmes, on écoute les Brigitte,
oui.
RFI.
Bien sûr.
Le goût du sel de tes larmes agite mon cœur plus fort que tout. Je reste tienne et je t'aime et je lèche tes joues et ton cou et je mange les voyous, mon amour.
Sans dessus dessous, les Brigitte sur RFI. Jean-Claude Auquet, c'est une allusion à peine voilée au côté salé, osé du sel. Le sel a connotation sexuelle dans le langage, en tout cas.
Oui, oui. Et Cette connotation vient de loin. Dès le Moyen-Âge, le sel, et aussi au temps de Pline, c'est-à-dire au temps des Romains, le sel a des vertus aphrodisiaques. Et il existe une caricature ancienne du XVIe siècle où on voit des dames saler les fesses de leur mari pour leur donner un peu de vigueur. Et dit la légende de la caricature, pour les guérir du mou.
Ah, bon. C'est le sel pour guérir du mou, ça veut tout dire.
Oui, ça veut tout dire. Mais je voudrais aussi, pour les auditeurs, montrer tous les trésors d'intelligence déployés par les hommes pour trouver du sel. Mm-hmm. J'ai participé à plusieurs expositions en Bavière et au Tyrol, et on m'a fait visiter les anciennes mines de sel. Alors, on y descend. On descend dans ces mines, dans la montagne, par des toboggans qui font 30-35 mètres de longueur, sur lesquels on glisse très rapidement jusqu'en bas. Et en bas, on monte dans des barques qui sont tirées par des cordes, et on parcourt des lacs salés, qui sont des lacs souterrains. Et ces lacs, ce sont des créations artificielles, humaines, d'hommes qui, un jour, ont trouvé plus intelligent de faire descendre une saumure par des canalisations de mélèze dans les vallées, plutôt que de transporter le sel sec, le rocher de sel, dans des hottes de cuir portées sur le dos, et c'était très pénible. Et ces lacs salés, donc, sont des créations humaines. L'eau dissout le sel des roches, et l'eau s'imprègne de sel, devient une saumure, et on obtient l'eau douce, soit par des puits verticaux qui arrivent dans la montagne, qui sont alimentés par la fonte des neiges ou par les pluies d'orage, les pluies d'automne, etc., et qui créent ces lacs salés. Et chacune des montagnes et de sel est ainsi garnie, enfin, est ainsi équipé de lacs souterrains. Et l'un des plus célèbres de ces lacs, et l'une des plus célèbres montagnes,
montagne
c'est le Berghof d'Adolf Hitler à Berchtesgaden, qui est une montagne de sel.
Le bunker d'Hitler était une montagne de sel.
Le Berghof était construit à Berchtesgaden, sur une montagne de sel. Le sel étant souterrain, bien entendu, protégé par des couches imperméables. Sinon, il aurait été dissous par les puits, on n'en aurait pas retrouvé la trace.
Jusqu'où nous entraînera le sel, pour reprendre le sous-titre de votre livre, de l'esclavage à la mondialisation, à l'industrialisation, en passant par toute l'ingéniosité humaine, tout ça pour avoir du sel, pour avoir le goût du sel. Nouvelle question pour vous, Jean-Claude Hoquet, pour l'historien du sel que vous êtes, posée par Caroline Tourbe, du mensuel Science et Vie.
Le goût du sel, dans l'espèce humaine, si je ne me trompe pas, n'est pas inné. C'est-à-dire que le goût du sucre, on pense que c'est assez inné. Un enfant va, dès les premiers stades, aimer le sucre. Alors que le sel, ça lui vient, et c'est même une habitude que l'on donne. Est-ce qu'il y a des populations qui ont plutôt une sorte d'aversion pour le sel?
Je ne sais pas si vous avez la réponse, Jean-Claude Hoquet.
Écoutez, je ne pense pas que le goût du sucre soit plus inné que le goût du sel.
Il y a eu des expériences, en tout cas, sur des nouveau-nés, sur qui sont tout de suite réactifs au sucre. Vous pensez qu'ils le sont aussi au sel?
Écoutez, pendant longtemps, mais je crois que ça a disparu, mais l'Église imprégnait les lèvres du nouveau-né baptisé, et on était baptisé dans les 3 jours qui suivaient la naissance, avec du sel. Et l'Église faisait d'ailleurs grand cas du sel, c'était le sel de la terre, avait dit le Christ aux apôtres, vous êtes le sel de la terre. L'Église se compare elle-même, au sel de la terre, au sel de la vie.
Le sel est sacré, d'ailleurs il est symbolique dans énormément de traductions, de traditions, pardon, à la fois sacré, à la fois parfois, il peut nous ensorceler, parfois aussi c'est du côté de la sorcellerie, enfin le sel est lié à notre vie, à notre mort, enfin...
Oui, et puis il est lié aussi à l'hospitalité.
C'est vrai.
Échanger le pain et le sel avec l'étranger qui vient frapper à votre porte, ça se trouve dans, chez les Hébreux, mais également dans les populations slaves. J'attire l'attention sur le sucre. Le sucre est un produit relativement récent, mais beaucoup plus récent que le sel. Longtemps dans les pays européens, on a connu le sucre de provenance unique, qui était le miel des abeilles, hein, que l'on récoltait, le miel sauvage dans les forêts, etc. Et le sucre, a longtemps, au Moyen-Âge, le sucre, c'était un médicament que l'on donnait aux malades, que l'on réservait pour les malades dans les hôpitaux de l'époque.
Hein. Alors que le sel était présent depuis toujours, hein, c'est ce que vous démontrez.
Le sel est présent depuis toujours, je ne sais pas, mais au moins depuis l'âge du bronze.
Au moins depuis l'âge du bronze, et puis le sel, notre naissance, enfin, même avant, même déjà dans le ventre, hein, on baigne dans un liquide...
L'embryon
baigne dans un liquide... Voilà, liquide amniotique. Oui. Toutes nos excrétions, nous-mêmes, tous nos liquides corporels sont salés.
Sont salés, et on a dans notre organisme une constante en sodium, qui se mesure, enfin, elle est de 140, c'est un coefficient, n'est-ce pas, 140 milligrammes par litre de par kilo du poids corporel.
Et les grands sportifs, pour se recharger, mangent des pastilles de sel.
Les sportifs, disons, de haut niveau, effectivement, avalent des pastilles de sel parce que la sudation lors d'une compétition est très, très forte, et ils doivent compenser cette perte de sel par une ingestion de sel.
Aujourd'hui, on en serait plutôt, Jean-Claude Hoquet, à se méfier du sel, en tout cas dans nos plats préparés, industriels, en beaucoup trop grande quantité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on se méfie du sel, qu'on dit attention... il ne faut pas trop en manger, alors qu'en fait, on en met un peu partout. On met notre crème de sel partout.
Je suis très prudent.
Oui.
Personnellement, j'évite de manger les plats tout préparés que nous offre l'industrie agroalimentaire. Mais essayez donc de manger du pain sans sel, et vous m'en direz des nouvelles.
Ouais, c'est
une
pas terrible.
Fadeur qui ne passe pas. Et d'autre part... le sel sert de liant à la pâte et à la lévitation, à la levure que l'on met dans la pâte à pain. Le sel a donc pas seulement une utilité du point de vue de la saveur du pain, mais également une utilité physico-chimique dans la fabrication du pain. J'avais longtemps gardé avec moi une coupure de presse où quelqu'un qui aurait mangé des viennoiseries au petit déjeuner et qui aurait ensuite au dîner, puis au déjeuner, puis au dîner, pris des aliments tout préparés que l'on fait réchauffer au micro-ondes, consommerait de 16 ou 17 grammes de sel, ce qui est évidemment une énormité. Je pense qu'aujourd'hui, la consommation des Français tourne autour de 6 à 8 grammes, c'est raisonnable. Ça ne provoque pas d'hypertension artérielle, tout au moins je ne le pense pas, et ce n'est pas un abus que de limiter sa consommation, d'autant plus que le trop salé est également désagréable, il faut le rappeler.
Oui, pour le goût, ça c'est clair. Il y a aussi le sel qui guérit, hein, vous le dites aussi dans votre ouvrage.
Oui, le sel qui guérit, le sel qui désinfecte, les plaies, par exemple, la solution saline que l'on administre aux grands brûlés, c'est encore aujourd'hui un produit médicalement indispensable.
Et puis il y a le mot, alors ça c'est une autre découverte que j'ai dans votre livre, le mot salaire, notre salaire, notre paye, ça viendrait du sel, là encore.
Ah, c'est le salarium du légionnaire romain, c'était une ration de sel qu'on lui accordait, et qui est transformé et devenu le salaire en argent. Mais aujourd'hui, le salaire est versé directement à la banque. Et
on n'aimerait pas trop recevoir du sel. Mais vous dites que le sel, ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on voit bien qu'il a traversé toutes les routes de toutes nos sociétés humaines, le commerce, la mondialisation. Oui. Et en même temps, vous dites qu'il est facteur de progrès, le sel.
Ah, oui. Je voudrais revenir... Alors, là, vous m'excuserez d'être un peu savant, mais en français, le sens des mots n'apparaît plus parce qu'on on ne trouve plus le radical sel. Mais les latins, dont le français est issu, les latins utilisaient le mot sapor pour saveur et sapientia, vous voyez, S-A-P, ce sont les deux mots qui désignent la saveur et la sagesse.
Et, oui.
et les deux font référence au sel. Vous êtes le sel de la sagesse. Alors, vous m'interrogiez aussi sur...
le progrès, facteur de progrès.
Facteur de progrès. Bien, écoutez, j'ai fait deux allusions. Déjà, je crois, enfin trois, j'ai parlé des bâtiments de graduation qui servaient à élever le degré des saumures, c'est-à-dire à éliminer de l'eau de la saumure pour garder une plus forte, pour lui donner une plus forte concentration en sel. C'est un premier point. Les bâtiments de graduation, mais ce sont des bâtiments qui font une 10-12 mètres de hauteur, construits sur des charpentes avec des fagots sur lesquels on faisait descendre la saumure goutte à goutte sur les épines des fagots pour exposer cette saumure liquide à l'action du soleil et du vent, et la faire évaporer, et on recueillait une solution, une saumure plus concentrée au pied de ce bâtiment. Et ces bâtiments servent aujourd'hui encore, l'Allemagne les a conservés, les a quelquefois restaurés, parce qu'ils soignent les maladies pulmonaires, genre asthme, bronchite chronique, etc., par les vapeurs iodées et salines que l'on peut respirer à proximité, parce que il y a une vaporisation de la saumure.
Tout le pouvoir du sel, on l'a compris avec vous.
Les pouvoirs du sel dans la médecine.
Les pouvoirs du sel dans la médecine. Alors, on va être obligé de s'arrêter là alors que l'histoire du sel continue. Oui. Merci infiniment, Jean-Claude Hoquet. Pour en savoir encore plus, en tout cas sur le sel, je renvoie à votre ouvrage passionnant, Le sel, de l'esclavage à la mondialisation, qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. À bon entendu, merci à vous Jean-Claude Hoquet et merci à la technique, à Cécile Manoa dans les studios de France Bleu Lille qui assurait le duplex. On reparlera du sel une prochaine fois. Merci Jean-Claude Hoquet.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour un avant-goût de la Nuit des Idées, 4e édition ce jeudi, sur tous les continents. Autour de la question, comment faire face au présent, nous partirons demain mercredi sur plusieurs pistes scientifiques avec Cédric Villani qui sera lui à Niamey au Niger pour la Nuit des Idées, avec également l'économiste et auteur Félouine Sarr qui sera lui à Washington en compagnie d'écrivains et penseurs du continent, et d'Émilie Gaillard à Paris qui plaidera, elle, pour le droit des générations futures. Tout un programme à suivre demain sur RFI et sur toute la planète jeudi, avec Hugo Violas à la réalisation, accompagné de Léo Gonzalez, Tania Tsikounas en coulisses. Merci de votre fidélité, chers amis auditeurs, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. Prochain journal sur RFI dans une minute.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.